Alors ça y est, on est de retour dans les studios, ça va vite, hein, dans les studios, et on est donc toujours avec Louis David au téléphone et Paul Barry dans les studios, et on parle d'un sujet très qui intéresse tout le monde en fait, mais qui est pas souvent traité dans l'information, dans les médias, c'est souvent un peu expédié, on peut dire, alors qu'il faut du temps. Il faut du temps pour réfléchir. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne rencontre plus les enfants. On est dans une espèce de tout le temps de la performance. Hein. Alors ça vient aussi de notre système. N'ayons pas peur des mots, c'est le système capitalisme qui veut ça. Il veut toujours qu'on aille vers l'essentiel, c'est-à-dire le profit.
Néolibéral.
Oui, c'est le profit. Donc comment faire du profit avec la psychologie?
C'est très simple, en fait, si je peux me permettre.
Oui,
je coupe la parole à Louis-David.
Oui.
Non, voilà, en fait, c'est une de ces réflexions là, c'est que maintenant on ne parle plus de bilan, on parle de test. Un bilan, c'est fait pour peser les différents éléments. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Là, il n'y a plus que le test, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le support, l'outil qui sert à déterminer si l'enfant est capable ou pas de continuer, et on ne regarde pas le reste, c'est-à-dire son aspect psychologique, s'il y a des troubles associés, si comment il se sent à l'école, etc. Ça, on le met de côté. Voilà. Donc ça, c'est ce que perd un petit peu, c'est ce que moi j'ai un petit peu appelé la prolétarisation du métier de psychologue, qui va un peu dans le sens aussi des enseignants spécialisés aussi.
Voilà ce que
je
pointe
dans l'article aussi.
Et puis les gens qui s'occupent des personnes handicapées, par exemple, c'est un peu pareil. On les sous-estime. Leur métier n'est pas valorisé, pas du tout.
Les maîtres, ce qu'on appelait autrefois les maîtres G et les maîtres F, ont tendance à disparaître. Depuis 2018, il y a une fonte en fait de tous ces deux corps en fait, en un seul. Et ils interviennent plus qu'en classe, alors qu'avant ils intervenaient hors la classe. Et voilà, enfin, on a tendance à banaliser un petit peu les métiers de chacun.
Alors, Louis-David, on revient avec vous. Vous êtes à la fois donc dans l'éducation nationale et aussi vous occupez donc de ces mineurs qui sont multi-récidivistes, c'est ça que vous dites?
Oui, tout à fait, dans ce qu'on appelle un centre éducatif fermé.
D'accord.
Et alors là, on se heurte à un problème un peu différent, puisque dans ce centre-là, un centre qu'on accueille entre 6 et 12 mineurs.
D'accord.
Donc vous voyez bien déjà, la question de la population et du nombre de patients est complètement différent par rapport à ce qu'on peut avoir dans les écoles.
Bien sûr.
Si vous voulez, un psychologue de l'éducation nationale, il a à peu près chaque année entre, on va dire, une cinquantaine et une centaine d'enfants à voir.
Oui.
Donc vous vous rendez compte, en plus, quand on fait un bilan, il faut parfois 2, 3
séances. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps.
Non, voilà, c'est ça. Mais ce temps, il faut le retrouver. C'est là où je veux insister. Oui. C'est-à-dire que si on se laisse happer par l'idée qu'on n'a pas le temps, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Vous voyez ? Voilà. Et donc, il faut justement aussi lutter contre ça, non pas seulement pour être contre l'institution, mais pour faire entendre un message à l'institution et lui dire, attention, on risque en fait de perdre les enfants. On risque de perdre le lien, ce qu'on appelle en psychologie, le lien intersubjectif.
D'accord.
Qui fait que là, je vous rencontre et je vous entends, vous et Paul Barry, et qu'on échange réellement et qu'on s'écoute. Voilà, vous comprenez?
Oui, tout à fait. Alors que si vous n'avez pas le temps de faire ça, bah évidemment, ce n'est plus un bilan, comme vous dites. Ce sont des espèces de tests avec remplit des cases ou on ne les remplit pas.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et ça, c'est inquiétant, je crois, pour alors pas seulement pour le métier de psychologue, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se retrouveront dans ce
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est le rapport au travail et le rapport justement en particulier à la frénésie qui fait que le plaisir au travail est perdu progressivement aussi.
Tout à
et
fait.
Ça, c'est dramatique. C'est dramatique.
Vous savez, on reçoit régulièrement l'association Souffrance au Travail 34, donc qui nous explique à quel point ça s'est développé, cette souffrance dans le milieu du travail. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais revenons donc avec vous, lors de cet article qui est paru.
Oui, tout à fait.
Donc, numéro de septembre-octobre.
Septembre-octobre, donc on peut l'acheter en kiosque, je suppose.
Bien sûr, voilà, oui,
voilà.
Bien sûr.
Et donc, c'est un assez long article, hein. Vous savez, ça représente combien de pages, là? Quelques-unes.
Oui.
Quelques-unes. Donc, c'est ça qu'il faut faire, évidemment, quand vous, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous rentrez, oui. évidemment. Mais on revient donc avec vous, Louis-David, pour oui. donc votre deuxième casquette, si j'ose dire. Là, quand vous êtes avec ces mineurs isolés, alors là, ils sont pas nombreux, ils sont une dizaine hein, dans
oui,
les centres.
Oui, tout à fait. Alors, je précise hein, que l'article écrit porte essentiellement sur qu'on appelle la clinique de l'éducation
d'accord.
nationale.
Oui, tout à, voilà. fait, tout à fait.
Donc c'était juste pour faire une présentation, hein, pour indiquer. Mais le parallèle est intéressant oui. sur le plan institutionnel. Et justement, le problème n'est pas le même aussi par rapport à la question du nombre de patients sur l'institution.
Tout à
vous
fait.
Voyez, c'est pour ça que tout est interlié entre la question du nombre de personnes sur une institution et
la qualité du travail. La qualité
voilà,
de votre travail, de votre travail. Bon, on a bien compris. On revient maintenant plutôt sur l'éducation nationale, hein, et puisque c'est le cœur un peu de ce que vous racontez, et sur l'enfance. Hein, oui. Je me tourne oui. aussi vers Paul pour qui peut répondre. L'enfance, oui. l'enfance, c'est compliqué l'enfance, et il n'y a pas deux enfants pareils.
Eh bien non, il n'y a pas deux enfants pareils, comme il n'y a pas deux adultes pareils. Alors voilà. on partage bien des choses, mais les enfants sont différents les uns des autres. Mmh. Et certains voilà, fonctionnent de manière complètement différente, se bloquent dans leurs apprentissages pour des raisons complètement différentes. Là, je cite dans notre article.
Ah oui,
pardon,
attention, oui. Vous êtes deux. Hein.
oui,
dans notre article, en fait, je cite une petite fille, mais, qui veut pas, enfin, qui s'intéresse pas aux mathématiques. Et pourquoi elle s'intéresse pas aux mathématiques? Eh bien, parce que dans sa famille, il y a déjà pas mal de gens qui s'intéressent aux mathématiques et elle veut se démarquer de ça.
Bien sûr.
Pour être elle-même. Voilà, elle est plus dans le relationnel avec ses copines. Elle bavarde beaucoup en classe. Elle se fait punir,
d'ailleurs. Elle va peut-être être journaliste.
Et c'est bien possible. c'est bien possible. Et voilà, donc elle discute avec ses copines. Et puis voilà, et ce qui l'intéresse, c'est plus ça. Elle est plus du côté social et culturel plutôt que du côté.
Et alors ? Donc, c'est ça le problème aussi, c'est ces parents qui veulent absolument souvent reproduire.
Alors, les parents, faut faire attention parce que les parents ne sont pas forcément conscients de ça. Oui. En fait, ils sont comme ça parce que voilà, ils fonctionnent comme ça parce qu'ils sont comme ça. Mais la difficulté, c'est de faire prendre conscience aux parents que
L'enfant est différent.
L'enfant est différent.
Voilà, c'est pas une réplique d'eux-mêmes.
C'est ça. L'enfant est toujours un autre, en fait. L'enfant est toujours quelqu'un qui arrive et qui est étranger, en fait.
Oui, c'est voilà. pas facile de connaître ses enfants.
C'est l'altérité, hein. c'est ça l'altérité, ce qu'on appelle le grand autre en psychologie.
Oui. Alors Louis-David, on arrive presque à la fin de cet entretien. On est resté quand même une vingtaine de minutes avec tous les deux, donc c'est intéressant. Mais bien entendu, j'insiste, on fera un petit article sur le site de Divergence qui renverra vers la revue et sur la vulgarisation, si vous voulez, de cet article.
Bien sûr.
Et puis surtout, il faut que si vous avez besoin d'en savoir plus, ben, il faut aller voir les gens qui sont les professionnels. On vous montre un petit peu du doigt, les psychologues, vous avez remarqué. Vous n'êtes pas les seuls. Hein, mais souvent, on leur dit, là, on a été voir un psy. C'est un côté un peu péjoratif qui est très dérangeant.
Alors, c'est peut-être, Louis peut en parler aussi bien que moi. Je pense que pour ce qui est de la dégradation, prolétarisation de psychologues et de... on voit dans l'actualité qu'on essaie de s'en passer le plus possible. Quoi. Voilà.
On tire vers le bas et on dit ça sert à rien, en gros.
On peut le substituer avec d'autres personnes qui peuvent faire fonction d'eux, les aides psychologiques. Ouais. Enfin, gens qui sont là pour travailler avec les psychologues.
Voilà.
Et souvent, on a tendance à les substituer carrément aux psychologues.
Je vous en prie.
Alors, je reviens sur un point qui est, je crois, fondamental.
Oui, je vous en prie.
C'est que vous disiez juste avant, le problème que des fois des personnes ont par rapport à la représentation du psychologue. Et je crois que les psychologues n'y sont pas pour rien aussi. C'est-à-dire que dans notre travail en institution, on se doit aussi de démystifier la position du psychologue. Oui. Et ça, c'est fondamental. Parce que si vous voulez, on assiste à des phénomènes parfois qui peuvent faire peur. c'est-à-dire des psychologues qui vont avoir tendance à utiliser beaucoup de théories, vous voyez, mm-hmm. et donc ça peut freiner aussi parfois les parents, même les enfants,
ça rebute,
à venir rencontrer
rebute,
des psychologues.
Oui. Voilà. Eh ben, écoute...
Et tout le fait de cet échange, oui. la vulgarisation, elle est même capitale, et c'est ça aussi qui fait rencontre, justement. Et... Vous voyez, si on avait parlé avec Paul Barry pendant ces 20 minutes avec des termes très théoriques, etc., personne n'aurait compris grand-chose.
Voilà.
Et c'est là justement le problème, en fait. Il faut pouvoir parler simplement pour qu'on puisse justement s'entendre et parler le même langage.
Eh bien, écoutez, ça va être le mot de la fin, figurez-vous, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Mais bien entendu, ce n'est qu'un petit entretien qui permettra d'aller plus loin. Alors, merci beaucoup d'abord d'avoir répondu à nos questions sur Divergence FM. Et puis,
merci à vous.
Et puis, on va diffuser ça, on va mettre un petit article, etc. Il y aura un podcast, vous pourrez vous réentendre, bien sûr.
Superbe.
Merci en tout cas d'avoir répondu et merci à Paul d'être venu.
Merci à vous, merci à...